La carte blanche, Africa Radio.
Notre invité carte blanche est déjà en ligne. Avant de le retrouver, je rappelle que ce soir, nous parlerons du refus de l'Union européenne de reconnaître Covishield, le vaccin anti-Covid homologué par l'OMS et distribué largement en Afrique. Quelles conséquences cela peut avoir sur les campagnes de vaccination sur le continent? Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Notre invité carte blanche est Kerwine Maïzo. Monsieur Maïzo, bonsoir.
Bonsoir à vous, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste et journaliste à Paris. Premier sujet sélectionné, le Soudan du Sud qui a célébré cette semaine les 10 ans de son indépendance et c'est évidemment aujourd'hui, ce vendredi.
Ben oui, effectivement, hein, c'était quand même important d'en parler parce que le Soudan du Sud, c'est le dernier pays indépendant d'Afrique. Alors, généralement, des think tanks occidentaux nous vendent la sécession, l'indépendance, la dislocation, la division de pays africains comme solution au développement. Ils disent généralement que des très grands pays comme l'Algérie, le Soudan ou la République démocratique du Congo, c'est tellement énorme que pour mieux les gérer, il faut les diviser. Aujourd'hui, l'exemple du Soudan du Sud, c'est un exemple qui doit interpeller beaucoup d'Africains parce que lorsqu'on regarde ces pays, 10 ans après l'indépendance, la condition de vie des Sud-Soudanais n'a pas changé. Et pourtant, une bonne partie du pétrole produit par l'ex-Soudan venait du Soudan du Sud. Ajoutez à cela un produit stratégique comme la gomme arabique. Alors, John Garang, un des présidents de l'époque, un des leaders de l'époque du Sud-Soudan, ne voulait vraiment pas un pays indépendant. Il voulait une espèce de confédération où le Soudan du Sud s'épanouirait dans un Soudan uni, avec au nord les musulmans avec leur façon de voir le monde, et au sud les chrétiens, les animistes, en fait les afro au sud. John Garang est mort. Maintenant on se retrouve avec deux leaders, Salva Kiir et El Bakhtiar. Les deux leaders, il y en a un qui est pro-américain et l'autre pro-britannique, et ils se livrent à une guerre. Pendant ce temps, la Chine et certaines puissances sont en train de pomper le pétrole. Est-ce qu'avec le pétrole du Soudan, on ne peut pas développer ces pays? Cela doit servir d'exemple à certaines personnes en République démocratique du Congo qui pensent que les Katanga indépendants ou une partie du Kasai ou les Kivu indépendants, ça sera synonyme de développement.
Merci.
L'exemple du Soudan doit interpeller.
Merci, Kerwine. Et je crois que vous parlez plutôt de Riek Machar et Salva Kiir, évidemment.
Voilà, Riek Machar.
Tout à fait.
J'ai dû parler de l'Afghan.
Voilà. Et le deuxième sujet, Kerwine, c'est Jacob Zuma qui aujourd'hui est en détention après des rebondissements dans ce dossier judiciaire où il est accusé de corruption.
La première des choses qui m'interpelle par rapport au dossier Jacob Zuma, c'est que dans un pays africain, on peut envoyer en prison un ancien président. Cela montre que quelles que soient les imperfections de l'Afrique du Sud, il y a ce qu'on peut appeler juridiquement un état des droits. Alors, maintenant, ça envoie deux messages. Premier message, au niveau de certains dictateurs africains, ils se disent, si on ne s'accroche pas au pouvoir, les pouvoirs qui constituent un bouclier, les pouvoirs qui confèrent des immunités, on risque de se retrouver en prison comme Jacob Zuma. Donc, ça va conforter certains dictateurs à rester au pouvoir pour se protéger et à continuer à être corrompu. Tandis que, de l'autre côté, au niveau de la société civile africaine, au niveau d'autres partis politiques, par exemple de l'opposition, ceux qui veulent bien faire les choses, ils se disent que l'espoir n'est pas perdu. Lorsqu'on a commis des bévues au pouvoir, on peut rendre compte. Maintenant, cette affaire de l'ANC. L'ANC, si on regarde bien l'histoire de ce parti politique qui a lutté pour la libération de l'Afrique, ce qui s'est passé, en fait, on a mis fin à l'apartheid racial pour consolider ou promouvoir une espèce d'apartheid économique. C'est-à-dire l'élite de l'ANC a rejoint l'élite blanche qui a dirigé ce pays pendant trop longtemps. Et cette élite de l'ANC est très corrompue, dont Jacob Zuma s'avère être une des têtes. Donc, le fait que Jacob Zuma se retrouve en prison, cela montre que l'espoir n'est pas perdu et que demain, avec les droits, lorsque le Covid sera terminé, Si on a planifié certaines injustices, l'Afrique du Sud peut reprendre son rôle de locomotive africaine.
Merci, Kerwin Maïzo, mais nous tenons à préciser que l'ancien président sud-africain n'a pas été condamné, n'est pas jugé ni condamné, et donc il est présumé innocent. Dernier sujet, et en quelques mots, Kerwin, l'assassinat cette semaine du président haïtien Jovenel Moïse par un commando étranger. Et la querelle politique qui est née de cet assassinat entre les premiers ministres sortants et entrants.
Oui, effectivement. Pourquoi est-ce que je parle d'Haïti sur Africa Radio? Parce que Haïti, c'est la première république noire indépendante. Et cette république noire, lorsqu'on regarde, c'est une espèce de miroir pour nous autres Africains. Dans cette république, Toussaint Louverture a défié un empereur très puissant du nom de Napoléon. Et il a gagné. Et on ne lui a jamais pardonné cela, que parce que c'est une guerre à la fois coloniale, mais à la fois raciste. Donc, lorsqu'il a gagné Napoléon, la France lui a fait payer un prix fort. Vous savez, si Haïti est pauvre aujourd'hui, c'est parce que, par exemple, ils ont payé une espèce de dette, ils ont indemnisé les propriétaires des esclaves, la somme s'élèverait à 31 milliards de dollars. Mais lorsque Toussaint Louverture a libéré ces pays, cela a envoyé un message aux Noirs qui étaient sous ségrégation aux États-Unis en se disant que si Toussaint Louverture l'a fait, les Noirs au sud des États-Unis pouvaient le faire. Donc il y a eu une espèce de coalition de tous les États colonialistes de l'époque, les États-Unis, l'Espagne qui avait des colonies en Amérique latine, la Grande-Bretagne qui avait des colonies.
Pardon de vous interrompre, c'est très intéressant ce que vous dites, Kerwin, mais on n'a pas le temps de faire l'histoire, mais parlons de l'avenir de Haïti, plongé dans une longue crise politique. Est-ce que vous pensez que les élections sur lesquelles insistent notamment les Nations Unies et la communauté internationale, la mission onusienne qui est sur place, peut être la solution de stabilisation ou d'une sortie de crise?
Ça va être une espèce de plâtre parce que la crise, elle est profonde, elle est énorme. Ce que moi, je vais proposer concrètement, c'est qu'au lieu de laisser les Occidentaux s'occuper de l'affaire de Haïti, il faut que l'Union africaine s'en saisisse parce qu'en quelque sorte, Haïti, c'est notre prolongation, c'est notre miroir. Il est temps que l'Union africaine mette des moyens, qu'ils se mettent assis, qu'ils aillent voir nos frères d'outre-mer, qu'ils les aident à se mettre ensemble pour résoudre cette crise.
Merci beaucoup, Kerwin Maïzo, juriste, journaliste et analyste politique congolais à Paris, d'avoir été notre invité carte blanche.
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Le refus de l'Union européenne de reconnaître Covishield, le vaccin anti-Covid AstraZeneca fabriqué en Inde, aura-t-il des conséquences sur les campagnes de vaccination en Afrique? Quel est donc le problème alors que ce vaccin est autorisé par l'Organisation mondiale de la santé qui le distribue d'ailleurs dans le cadre de l'initiative COVAX à plusieurs pays africains? Nous en parlons ce soir avec trois invité. Professeur Yap Boum, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Pas encore. Vous êtes épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Et en ligne de Brazzaville, docteur Étienne Macon-Dimoubé, professeur à l'Omo University of Research en RDC. Il est également ancien vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Congo et ancien directeur de la pharmacie laboratoire à Brazzaville. Docteur Macon-Dimoubé, vous m'entendez? Bonsoir.
Je vous entends très bien. C'est Macon-Dimoubé.
C'est Macon-Dimoubé, pas Macon-Dimoubé.
Oui, pas ma, c'est me, Macon-Dimoubé.
D'accord, Macon-Dimoubé. Alors, je retire le N. Merci d'être avec nous, docteur, et pardon d'avoir écorché votre nom. Avec nous, docteur Guy Alouvor. Docteur Alouvor, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Chirurgien, médecin expert médical à Paris. Voilà donc le dossier qui nous intéresse ce soir, c'est la décision de l'Union européenne de ne pas reconnaître Covishield, un vaccin pourtant autorisé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quelles interrogations, docteur Macon-Dimoubé, vous posez-vous au niveau de la communauté scientifique sur cette question?
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Mais vous savez, c'est une question qui est cruciale. Le problème de l'accession des médicaments en général en Afrique pose toujours un problème. D'abord, premièrement, parce que les industries africaines de production des médicaments, donc des vaccins, sont pratiquement inexistantes, et surtout dans le domaine de la vaccinologie. Ça, c'est déjà le premier problème. Et puis, les rapports entre les pays du Nord et du Sud posent aussi un certain nombre de problèmes. Vous savez très bien qu'à l'époque, lorsqu'on testait les médicaments, ça s'est passé au Sud, donc dans nos pays, quand on faisait des essais cliniques sauvages. Ce qui fait que cette division qui existe depuis l'historique continue à se perpétuer. Alors, cette décision, à mon avis, qui semble pénaliser les populations africaines, est inacceptable. Parce que la pandémie, elle est mondiale. Donc, par conséquent, il faut qu'il y ait une répartition inéquitable sur l'acquisition des médicaments, donc des vaccins, dans tous les pays.
Excusez-moi, docteur Mokodimobe, alors, assurons-nous bien de ce dont nous parlons. Nous parlons ce soir du refus par l'Union européenne de reconnaître un vaccin qui a été autorisé par l'OMS, distribué par cet organisme mondial de la santé. C'est bien de cela qu'on parle. Vous, quand vous observez de telles situations, quelles sont les questions que se pose la communauté scientifique? Est-ce que c'est du deux poids, deux mesures? C'est l'extrême prudence? Qu'est-ce que vous dites face à cette situation?
Mais de toute façon, vous avez déjà, à travers votre question, répondu. Mais il y a déjà la grande interrogation dans les milieux scientifiques. L'OMS est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, en fin de compte, c'est quand même une veille scientifique la plus autorisée au niveau mondial pour essayer de donner un jugement sur la circulation des médicaments, des vaccins dans tout le monde entier. Donc, il y a déjà une indignation. Je suis très indigné par rapport à ce problème-là. Parce que quand on parle, tout à l'heure, j'ai suivi le débat de l'invité spécial que vous avez eu sur l'apartheid. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte d'apartheid vaccinal, là, au niveau du monde, là? C'est un problème qu'il faut résoudre. Par conséquent, il y a forcément une indignation déjà à faire. Et que ce problème-là de la santé doit être posé au niveau de grandes instances internationales.
Merci.
Pourquoi pas à l'ONU?
Merci beaucoup. Merci pour vos premières déclarations, docteur Mokodimobe. Professeur Yaboum, vous m'entendez? Je le vois pourtant en notre écran. On vient de le perdre, l'épidémiologiste à Yaoundé. Voilà. Hugo Valère m'assure que cette fois, c'est la bonne. Professeur Yaboum, vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Il y a une énorme pluie à Yaoundé, donc ça brouille un peu le signal, mais je suis là.
D'accord. Et dites-nous, aussi indigné, docteur, comme votre collègue de Brazzaville, de cette attitude de l'Union européenne?
Oui, certainement indigné sur le principe, mais il faut mettre en avant les évidences. Et premièrement, il y a ce refus, c'est clair. Maintenant, il y a eu des possibilités, parce que c'est un choix politique, il y a des pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne par exemple, qui vont au-delà de ce refus de l'Union européenne pour accepter dans leur passeport vaccinal ces vaccins-là.
Oui, il y a certains pays qui ont commencé à accepter, effectivement, pays européens.
Voilà. Donc, c'est important de dire qu'il y a eu un raté fondamental en termes de communication et en politique, parce que la raison fondamentale pour laquelle le vaccin AstraZeneca Covid-Shield n'est pas autorisé en Europe, c'est parce qu'il n'a pas été soumissionné. C'est une question réglementaire au départ.
Maintenant, mais qui est responsable de cette question réglementaire? Est-ce que l'erreur vient de l'OMS ou bien des Indiens qui fabriquent Covid-Shield? D'où vient le problème?
Alors, ce n'est pas un problème en soi, parce que le vaccin AstraZeneca qui est produit en Angleterre pour l'Europe a été soumis à l'Union européenne, donc c'est normal. Et celui qui est produit en Inde, qui n'est pas destiné à l'Europe, n'a pas à être soumis en Europe parce qu'il n'est pas destiné pour ces pays. Le problème vient après pour ceux qui ont été vaccinés en Afrique et ailleurs qui n'ont pas la possibilité d'entrer en Europe. Donc, ce n'est même plus réglementaire, c'est politique. Et c'est pour ça que des pays ont pris à bras le corps ce problème et toute l'Union européenne doit le prendre également. Et je suis d'accord avec le président orateur en disant qu'on ne doit pas aller à l'encontre de l'OMS. Que les vaccins soient autorisés pour la vaccination dans les pays, c'est une chose. mais de permettre aux voyageurs d'entrer au pays, c'est encore autre chose.
Merci beaucoup, docteur professeur Yaboum. Le temps que vous mettiez aussi un peu à l'abri du bruit que vous entoure, parce que la pluie dont vous parliez à Yaoundé perturbe assez déjà votre... notre communication avec vous. Docteur Guy Alovor, vu d'Europe ici, qu'est-ce qui peut... est-ce que vous comprenez la décision de l'Union européenne?
Bien. L'Union européenne, vraiment, ça suffit comme ça, se moque complètement du monde. Ce n'est pas les Africains qui ont inventé ce vaccin. Ce n'est pas sous licence africaine qu'il est produit. Et l'Union européenne, du haut de son complexe de supériorité, décrète qu'il ne reconnaît pas ce vaccin. Je dis ceci, les Africains sont responsables de leur propre turpitude. Voyez-vous, ça fait un an et demi que nous sommes dans cette crise. Consultez le tableau de bord de la situation sanitaire des pays africains. Je donne deux exemples. Au Togo, sur une population de 8 millions d'habitants, il y a 128 décès depuis un an et demi. Au Burkina Faso, sur près de 21 millions d'habitants, il y a 168 décès. Dis donc, il faut comprendre comment la situation pour prendre les décisions les plus adaptées. Combien d'êtres humains ont perdu leur vie sur des accidents de la voie publique dans ces deux pays-là durant cette période? Vous trouvez que l'urgence pour l'Afrique maintenant, c'est de vous injecter ces mixtures géniques?
Pardon, docteur, une fois de plus aussi, comme je l'ai dit à votre collègue de Brazzaville, recentrons-nous sur le débat concernant l'attitude de l'Union européenne. Le débat n'est pas sur le vaccin, mais c'est sur le refus de l'Union européenne de reconnaître certains vaccins ou un vaccin qui a été homologué, autorisé, distribué par l'OMS. Alors, vous disiez que du haut de son complexe de supériorité, ce sont vos mots, l'Europe refuse ce vaccin. Vous estimez aujourd'hui que c'est inapproprié, c'est politique, c'est une décision purement politique, c'est de la condescendance, c'est quoi?
Je dis que l'Afrique a des problèmes plus sérieux à régler que de vouloir être reconnu par quelqu'un qui n'a rien à se couper de votre situation sanitaire en matière de Covid. Le Covid n'est pas une priorité sanitaire en Afrique. Les chiffres sont là. Vous les consultez.
Merci beaucoup.
Vous voulez qu'on vous reconnaisse? Ah ben oui.
D'accord.
Vous attendez assez longtemps, je vous le garantis.
En tout cas, l'OMS n'est pas de votre avis, l'Organisation mondiale de la santé, qui rappelle et qui attire l'attention des pays africains sur le fait que le continent est en train de faire face à la troisième vague. Nous en parlerons, bien évidemment, dans la suite de ce débat, dans quelques petites minutes.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Pour quelles raisons l'Union européenne refuse-t-elle de reconnaître le vaccin Covishield distribué en Afrique par l'OMS dans le cadre du dispositif COVAX? Quelles conséquences sur les campagnes de vaccination qui peinent à décoller sur le continent? Nous en parlons ce soir avec trois invités, Dr Étienne Moko-Djimobé, professeur à l'Omo University of Research en RDC et ancien vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Congo et à Brazzaville. Et Dr Guy Alovor, chirurgien, médecin expert médical ici à Paris, et en ligne de Yaoundé, professeur Yaboum, épidémiologiste et représentant d'Épicentre Afrique, le centre de recherche de l'ONG Médecins sans frontières. Je reviens à vous, docteur Étienne Moko-Djimobé. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous expliquer comment fonctionne ou comment travaille l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec les organismes continentaux d'homologation des médicaments ou vaccins, comme l'Agence européenne des médicaments? Peut-être cela permettrait de bien comprendre ou de bien cerner le problème.
Bien sûr, l'OMS, comme on dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc forcément, c'est un organisme qui conseille nos États. C'est ça la fonction première. Donc, ils ont une forte implication sur les décisions que prennent parfois nos États, ce qui est tout à fait normal. Il y a donc une interaction entre le mouvement des États et de l'OMS. Au niveau de chaque État, évidemment, il y a des organismes de validation des médicaments, au sens où il y a forcément des directions de pharmacie, des agences de régulation du médicament qui sont habilitées à faire en sorte que les médicaments qui circulent au niveau de l'Afrique, y compris les vaccins, doivent être donc homologués au niveau non seulement national, mais aussi international. C'est une évidence.
Pour faire clair, est-ce qu'un médicament ou un vaccin, puisque c'est de ça qu'il s'agit ce soir, peut être homologué par l'OMS et refusé par une instance nationale ou continentale, comme c'est le cas avec l'Agence européenne?
En vérité, ma réponse devait être non. Parce que, en fin de compte, même les pays européens, ils sont bien membres de l'OMS. Donc, ça veut dire que les experts travaillent avec intelligence, avec les autorités réglementaires de chaque pays. Donc, il y a forcément une coordination qui doit être étroite, et surtout que c'est au niveau scientifique. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir une décision par l'instance supérieure qui a été décidée par l'OMS et que une union européenne puisse décider finalement que ce médicament ou ce vaccin n'est pas valide. Il me semble, selon les quelques informations que j'ai, est-ce qu'il y aurait-il des problèmes économiques derrière ces décisions? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'industrie pharmaceutique
C'est quoi votre analyse pour bien comprendre, docteur Moko Dimobe? C'est-à-dire que l'Union européenne voudrait privilégier le vaccin américain Pfizer plutôt que le pseudo-britannique AstraZeneca, avec lequel elle est déjà en procès?
Mais il ne faut pas oublier que l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Hein. Donc il y a toujours des débats qui sont sous-tendus que nous ne maîtrisons pas. Et que nous savons très bien que le problème de la diffusion des vaccins dans le monde entier est aussi un problème économique.
Merci.
Donc à partir de là, voilà, on peut penser qu'il y a beaucoup, de raisons.
Il y a beaucoup d'enjeux. Merci. L'Union européenne qui a reproché à un moment donné, il y a quelques mois, à AstraZeneca de ne pas honorer ses engagements de livraison de vaccins à l'Europe. Professeur Yaboum, absolument, est-ce que vous aussi, vous iriez sur cette piste que vient de dire votre collègue, docteur Moko Dimobe?
Écoutez, il est difficile pour moi de pouvoir identifier les causes profondes. Moi, je regarde surtout l'impact que ça a. Le président Tshisekedi qui refuse de prendre ce vaccin, l'hésitation vaccinale qu'on voit dans beaucoup de pays, moi, c'est ce que je vois principalement. Pour les raisons et les enjeux économiques entre Européens, je pense que c'est plus compliqué que le risque que moi, je peux faire aujourd'hui.
Mais on essaye aussi, dans un premier temps, de comprendre qu'est-ce qui a pu motiver les raisons de l'Union européenne. Même si certains pays aujourd'hui reconnaissent ce Covishield, avant peut-être de parler de l'impact, nous en parlerons dans un instant, essayons de comprendre, de cerner les raisons qui justifient cette position de l'UE.
Oui, ben justement, c'est ce que je disais en début d'émission, les raisons évoquées sont réglementaires. Donc, si on veut aller plus loin, effectivement, s'avancer sur les intérêts économiques, on peut trouver d'autres raisons, probablement, de mettre en avant un vaccin plutôt qu'un autre, mais on parlera sans avoir de réelles évidences. Et vous savez, le travail que nous faisons s'appuie avant tout sur des évidences.
D'accord. Et peut-être un mot encore sur cette collaboration entre l'OMS et les organismes d'homologation des pays ou des continents. Et qui a le dernier mot, finalement, en cas de litige comme celui-ci? Qui a le dernier mot?
C'est justement là où il y a le problème. C'est que si l'OMS n'arrive pas à imposer ses recommandations, la question peut être posée, quel est donc le rôle de l'OMS? Effectivement, l'OMS devrait avoir un mot, surtout dans la gestion d'une pandémie comme celle-là. Donc il y a vraiment une crise qui remet en cause le rôle de l'OMS par rapport aux différents pays et différents continents.
Merci. Docteur Guy Allouvoir, est-ce que cette crise ne fragilise pas davantage l'OMS qui a du mal à imposer peut-être ses recommandations. Déjà, on a vu qu'il y a certains pays, grands pays, qui ont produit leurs vaccins et qui ont commencé à les administrer à leur population sans attendre le quitus et le feu vert de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que cette situation ne risque pas de la fragiliser davantage?
Bien. Mais vous n'avez pas, Madame Niacha, posé la question des questions. Est que pourquoi est-ce que l'Afrique tient absolument à ce qui n'a aucun intérêt à reconnaître ses intérêts, reconnaisse un vaccin dont il se sert? C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la position du mineur qui demande que son tuteur adulte lui donne l'autorisation d'eux. Vous l'aurez, vous attendrez, je vous dis encore une fois, longtemps. Bien. Prenons d'autres exemples. La Chine, d'où le virus est parti, de la ville de Wuhan. Ce virus n'a jamais atteint la capitale chinoise, Pékin. On ne parle plus du virus de Wuhan. La souche originelle a disparu. Aujourd'hui, le problème est essentiellement concentré en Occident. Vous pensez que les Chinois ont entendu l'autorisation, la reconnaissance, le remerciement ou l'approbation de qui que ce soit pour régler le problème qu'il a
C'est ce que je disais, justement.
Développer leurs médicaments et les vaccins.
Oui, mais aujourd'hui...
Qu'est-ce que l'Afrique attend alors? Dieu merci.
Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur Louvaux, que les Africains, malgré ce refus du Covid Shield par l'Union européenne, devraient continuer allègrement et tranquillement à administrer ce vaccin qui n'est pas reconnu par l'UE?
Alors, la seule chose, à mon humble avis, qui est révoltante, parce que honnêtement, je dis encore une fois, le Covid en Afrique n'est pas une priorité sanitaire, en dehors de quelques pays comme le Maghreb et l'Afrique du Sud, qui ont un mode de vie plus proche de l'Occident que de l'Afrique noire. En dehors de ces cas-là, la seule chose qui est révoltante, c'est les pauvres Africains qui aimeraient voyager en Occident, alors qu'il y a toute l'Afrique à visiter. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut aller en Europe nécessairement. Moi, j'y suis parce que je travaille. Je suis français, je suis fonctionnaire de l'État français. Donc, je suis dans mon pays et j'exerce mes activités. Bien. Celui qui veut venir, malheureusement, il pense qu'après avoir fait des injections de cette mixture d'AstraZeneca, parce que les Européens font la guerre entre eux actuellement, je vous parie que bientôt ça va aller plus loin que ça, ne veulent pas reconnaître le vaccin fabriqué par les gens de Boris Johnson parce qu'ils ont fait le Brexit. Voilà le nœud du problème.
Donc vous êtes aussi L'Africain dans... La principale raison serait économique, comme le disait Dr Moko Dimobe.
Permettez que je finisse mon explication, s'il vous plaît, Lydia.
Allez-y.
L'Africain est victime d'une bataille qui ne le concerne pas. Mais la seule façon de sortir de ça, il faut que les diplomaties africaines s'en saisissent et utilisent l'arme de la réciprocité. C'est-à-dire, aucun Européen vacciné au Pfizer, Moderna ou Janssen ne mettra pied sur le continent africain. Et vous verrez, ça va se régler comme ça.
D'accord. Et maintenant, ma question sur l'OMS. On va voir ce qu'en pensent les autres, vos deux autres collègues. Maintenant, l'impact de cette crise sur la crédibilité et la légitimité même de l'OMS, son poids...
Est-ce que vous avez jamais vu le budget de l'OMS, Liliane? Je suppose que non. L'OMS, ce n'est plus les États. Attention, oubliez ça. Hein. Les gens qui pensent que c'est supra, machin et tout, et que l'OMS est au-dessus de l'Union européenne.
Ce sont les privés, dont Bill Gates notamment.
Voilà. Bill Gates et l'industrie pharmaceutique.
D'accord.
Pourvoient à 90% au budget de l'OMS, si ce n'est plus.
Et donc?
Donc, les décisions de l'OMS, personne n'a rien à se foutre. Hein. Oubliez ça.
Merci. Merci beaucoup. Docteur Étienne Moko Dimobe, l'autre question à laquelle nous souhaitions aborder ce soir, ce sont les conséquences de cette situation sur les campagnes de vaccination qui n'attirent déjà pas grand monde en Afrique. Est-ce que cela a une incidence?
Mais bien sûr, madame, bien sûr, il y a une incidence, déjà, comme vous le dites, hein. Il n'y a pas l'engouement pour la vaccination contre la COVID-19. Mais ça, c'est un problème. Moi, je pense que je n'en fais pas trop un grand problème parce que je pense qu'au fur et à mesure, du fait de la circulation du nouveau variant, le variant Delta, nous serons contraints d'aller à la vaccination pour une simple raison. Bien sûr,
non, non, la question était de savoir si, docteur Étienne Dimobé, cette position de l'Union européenne à propos de AstraZeneca, qui a déjà fait l'objet de beaucoup de controverses dans le passé et qui aujourd'hui n'est pas reconnue par l'Union européenne, peut davantage dissuader même ceux qui étaient prêts à aller se faire vacciner.
Mais bien sûr, forcément. C'est une mauvaise campagne que devient prendre l'Union européenne vis-à-vis de la campagne de vaccination au niveau mondial. C'est une contre-propagande évidente. Et ça, l'Union européenne devait en tirer les conséquences. Déjà, il y a déjà une sorte de méfiance de la vaccination au niveau des populations africaines. Et quand l'Union européenne prend cette décision, mais il amplifie forcément cette méfiance. Donc ça veut dire que nous aurons forcément des problèmes pour convaincre la population africaine à aller à la campagne. Même si mon collègue dit que ce n'est pas une priorité, je nuancerai sa position, en sachant très bien que nous sommes dans des cités, dans des sociétés où les structures sanitaires ne sont pas aptes à gérer les grandes épidémies. Il connaît très bien, moi je vis en Afrique depuis longtemps. J'espère que lui, en parlant comme ça, il a déjà fait un tour dans nos cités africaines. Il ne faut pas qu'il y ait de grandes pertes humaines ici, déjà qu'on a eu, même si c'est très peu. Mais lorsqu'on aura de grandes pertes, comment on va les supporter quand on n'a pas de structure? Donc je pense qu'il faut trouver, la mesure nécessaire pour concilier la vaccination et évidemment son pessimisme par rapport aux priorités africaines.
Merci.
Mais je pense que mieux vaut prévenir que guérir.
Merci. Professeur Yaboum, vous aussi, vous observez peut-être à Yaoundé que cette polémique risque d'avoir une incidence négative sur la vaccination au Cameroun, par exemple. Allô, professeur Yaboum? Il ne nous entend pas. Je propose, Hugo Vallière, qui était à la réalisation, qu'on observe la pause maintenant et on se retrouve pour la suite et fin de notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelles conséquences le refus de l'Union européenne de reconnaître Covishield, vaccin anti-Covid AstraZeneca distribué en Afrique et homologué par l'Organisation mondiale de la santé sur les campagnes de vaccination sur le continent? Nous en parlons ce soir avec Dr Guy Alouvor, chirurgien médecin expert ici à Paris, Dr Étienne Moko Dimobé, qui est ancien vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Congo, il est à Brazzaville, et en ligne de Yaoundé, professeur Yaboum, épidémiologiste que nous avons retrouvé. Professeur Yaboum, votre collègue de Brazzaville, docteur Moko Dimobé, parlait de la mauvaise publicité que cette polémique va avoir les campagnes de vaccination. Est-ce que c'est également votre crainte ou vous observez déjà cela au détour des discussions à Yaoundé?
Bien sûr, hein, c'est vraiment comme si on se tire une balle dans le pied hein, pour ceux qui voulaient effectivement mettre en avant le vaccin comme un outil, ce qu'il est. On a vu le président Tshisekedi qui a refusé de prendre le vaccin. Moi, effectivement, tout autour de moi, ça renforce l'hésitation que beaucoup de personnes avaient déjà en se disant « est-ce que c'est le même vaccin ?» Pourquoi il y a un vaccin pour les Africains?
Mais est-ce que c'est le seul président africain à ne pas se faire vacciner? Même ici en France, il y a le cas de le leader de la France insoumise qui n'est pas, sauf si c'est moi qui suis en retard sur l'information, ne s'est toujours pas fait vacciner. Je parle de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais on parle du président de la République de la RDC, un pays qui actuellement est affecté hein, grandement par cette épidémie et qui en plus de ça est aujourd'hui le président en exercice de l'Union africaine. Donc, à ces deux titres, il y a un impact, mais ce n'est pas pour dire que, en fait, son geste, c'est un geste aussi politique. Je pense que lui aussi, je n'ai pas discuté avec lui, bien sûr, mais je pense que derrière ce refus, il y a un questionnement réel sur l'équité entre l'Afrique et le reste du monde.
D'accord. Et comme nous sommes en conclusion, je vous laisse réagir hein, sur... ce que peut faire aujourd'hui l'OMS, quelle est sa marge de manœuvre et comment peuvent riposter les pays africains dont les ressortissants sont concernés par cette décision de l'UE?
Alors, je pense qu'effectivement, l'Union africaine, de l'Africa CDC, de l'OMS doivent avoir encore une communication encore plus agressive vis-à-vis des pays qui, rappelons-le, financent le COVAX. Je pense que c'est vraiment, comme disait l'un des autres, au niveau diplomatique, au niveau politique.
Donc vous seriez d'accord pour une réciprocité, comme le suggérait le docteur Guy Alouvor?
Une réciprocité, est-ce que ça va permettre de...
C'est-à-dire refuser l'accès aux pays africains, aux ressortissants européens qui se sont fait vacciner avec le Pfizer, le vaccin américain?
Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire d'entrer dans ce combat de cette manière-là. Il y a de la diplomatie, on peut faire du plaidoyer. Et je pense qu'on va y arriver, d'autant plus que des pays européens l'ont déjà accepté. Donc, continuons de pousser, de faire du plaidoyer. Et puis, je pense qu'on va arriver à mettre en côté cette inéquité qui n'a, pour nous, aucun sens.
Merci. Docteur Étienne Mokodimobe, d'accord pour faire la diplomatie. Est-ce que le temps qu'on met encore à faire de la diplomatie sur cette question avec les Européens ne devrait pas être consacré à autre chose, à sensibiliser, à accentuer la sensibilisation sur la vaccination qui peine en Afrique?
Mais je pense que le point de vue de mon collègue, je partage ce point de vue. Hein. Il faut une diplomatie active, tout simplement. Le président de la RDC, c'est le président de l'Union africaine. Il y a les CDC Afrique, comme il a dit, et l'ONS. Il faut tout simplement une concertation rapide et dynamique pour faire en sorte que les présidents qui sont concernés par ce problème, en particulier celui de la RDC, doivent prendre l'initiative pour essayer de poser ce problème au niveau du monde, en fin de compte. Je pense que les tribunes sont là. Et nous avons suffisamment des rapports étroits avec l'Europe pour imposer la voie de l'Afrique.
Poser le problème, comment? Dites-nous concrètement, comment est-ce que vous voyez une possible solution avec l'Union européenne?
Mais déjà, le président de l'Union africaine devait saisir ses pairs, et il en a les moyens, puisque celui qui dirige politiquement l'Afrique, saisir ses pairs, et faire une réunion extraordinaire en y associant évidemment l'OMS et y compris les CDC, associer aussi, je pense ce qui est important, parfois il y a des conseils scientifiques africains pour qu'on ait une position commune par rapport à cela, parce que la pandémie est là.
Faire bloc contre la décision de l'Union européenne.
Contre la position de l'Union européenne. C'est là qu'il faut mettre les choses au premier niveau. La diplomatie doit fonctionner de manière forte. Et on n'a pas obligé de faire empêcher les gens de voyager. C'est pas ça la solution. Il faut résoudre le problème de manière globale. Et je pense que le monde gagnerait beaucoup de choses à y faire de cette manière-là.
Merci. Docteur Guy Alouvor.
Oui. Alors, il faudrait que la France de courir derrière des chimères. Comment dire? Pourquoi vouloir coûte que coûte qu'on reconnaisse quelque chose qui n'est pas, encore une fois, prioritaire chez nous?
Pardon, je pense que le débat évolue. On n'est plus au niveau de la reconnaissance. Il y a des pistes qui ont été proposées par vos collègues, le professeur Boum et le docteur Dimoubé.
La question de la réciprocité diplomatique, c'est moi qui l'ai suggéré.
Tout à fait.
Non. Je vais vous dire ceci. Il y a un an et demi, tout le monde disait que les Africains allaient mourir comme des mouches dans une hécatombe. Nous attendons toujours l'hécatombe. Ça, c'est bien. Deuxièmement, l'Afrique est l'endroit le moins vacciné de la planète. Les chiffres de décès sont là. Les pays les plus vaccinés, on voit ce qui se passe actuellement. Ouvrez les yeux un petit peu, les Africains. En Afrique, on n'a pas choisi la stratégie des 4D. Restez chez vous, à domicile, prenez du Doliprane, reposez-vous, faites dodo, et finalement, à vous suffoquer, vous appelez...
Pardon, docteur Alouvor, il nous reste 1 minute 30. Dites-nous bien, concrètement, vous avez fait une proposition, la réciprocité, vos collègues ont fait d'autres propositions. Comment voyez-vous la sortie?
Pour que nous continuions à courir derrière un chimère, alors que l'hécatombe n'a pas eu lieu sans vaccin.
Mais l'OMS est en train d'alerter sur les dégâts que font la troisième vague sur le continent.
Oui, écoutez, on aura épuisé les 24 lettres de l'alphabet grec, qu'il y aura encore des variants, je vous le prédis.
C'est quoi aujourd'hui, de manière concrète?
Ça sera mon dernier mot, d'ailleurs.
Oui. Quelle est aujourd'hui la solution concrète pour que l'Union européenne, la plupart des pays qui continuent de refuser le Covishield puissent accepter sur leur territoire les personnes qui ont reçu les deux doses de Covishield?
Mais demandez aussi aux Américains de reconnaître, aux Chinois de reconnaître, aux Indiens de reconnaître pendant qu'on y est. Qu'est-ce que l'Afrique avait avec ces tortionnaires? C'est pas possible, non? Moi, ça me dépasse. Vous savez, les Chinois disent ceci. On n'a jamais vu un peuple aussi amoureux de ce bourreau. Voilà ma conclusion.
Merci. Professeur Yaboum, pour terminer en deux mots, est-ce que vous pensez que la diplomatie ne va pas être une voie très longue pour obtenir des résultats? Parce que pendant qu'on y est, il n'y a pas encore, à mon avis ou à ma connaissance, une initiative de rencontre au niveau continental avec l'Union européenne.
Mais justement, c'est le point, c'est que ça doit se mettre maintenant que le président de la RDC a dit non à ce vaccin, il doit réunir ses pairs le plus rapidement possible. Mais surtout, ce qu'il faut dire, au-delà des voyageurs, quand moi je pense à l'Ouganda où on a des collègues, on voit bien qu'il y a besoin de doses de vaccins, on ne peut pas le nier, on en a besoin. Donc il faut des vaccins rapidement et il faudrait que le président de l'Union africaine puisse saisir rapidement ses pairs et qu'on puisse avoir une décision rapide sur ces vaccins.
Merci beaucoup, professeur Yaboum, épidémiologiste et représentant d'Epi Centrafrique, le centre de recherche de l'ONG MSF à Yaoundé au Cameroun. Merci au docteur Guy Alouvor, chirurgien médecin expert médical à Paris. Et merci à vous, docteur Étienne Moko-Dimoubé, professeur à l'Omo University of Research en RDC et ancien vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Congo, ancien directeur de la pharmacie et laboratoire à Brazzaville. Retrouvez cette émission bientôt sur africaradio.com. Bonsoir.